Bienvenue dans le podcast Tita Libris. Nous y accueillons des ostéopathes, auteurs, pour nous parler de leurs pratiques professionnelles et d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Ferru, ostéopathe et spécialiste de la prise en charge de la femme. Lors d'un précédent épisode, nous avions abordé ensemble la question de la fertilité suite à la parution de son livre « Ostéopathie et fertilité » aux éditions Tita. Depuis, nous avons cheminé, frétillé et avons rencontré l'ovocyte qui nous a acceptés. De deux demi-matériels génétiques, nous allons bientôt former un nouvel être. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous faisons la part belle à la grossesse. Nous allons développer l'approche ostéopathique de la grossesse en profitant d'un instant de fulcrum avec Bernard Ferru. Je suis Vladimir Sekelge, éditeur chez Tita Éditions, et je suis accompagné de Betsa Bémer, éditrice assistante. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode.
Bonjour.
Bonjour Bernard.
Nous t'avons déjà reçu pour parler de fertilité. Est-ce que tu exerces toujours à Orgeval ?
Oui, bien sûr. Ça fait 35 ans que je suis là.
Et es-tu toujours un ostéopathe heureux ?
Toujours. toujours. Il n'y a aucun problème. Épanoui, amoureux de ce qu'il fait. Et voilà, c'est une vraie passion.
Pour les auditeurs, vous pouvez écouter l'épisode sur la fertilité pour en apprendre un peu plus sur le parcours professionnel de Bernard Ferru. Donc Bernard Ferru, même si l'ostéopathie est une approche globale, tu as développé une expertise sur l'accompagnement de la femme enceinte. Donc comment est-ce que tu en es arrivé là à cette spécialité ?
L'évolution, je pense, d'une personne est toujours un peu le résultat de certaines rencontres, certains hasards. Lorsque j'étais étudiant en ostéopathie, donc il y a très très longtemps maintenant, dans les années 80, j'avais reçu une patiente qui avait une douleur de genou très très importante. Elle était enceinte de 5 ou 6 mois. J'ai réfléchi un petit peu pourquoi elle avait une douleur dans le genou qui l'empêchait de marcher. Et en fait, après lui avoir donné le rendez-vous, quand je l'ai vu arriver, j'avais imaginé que l'utérus se développant appuyait sur quelque chose qui faisait cette douleur dans le genou. Je ne savais pas trop quoi faire à l'époque, hein. J'étais vraiment un novice en ostéopathie, et j'ai essayé de mobiliser un petit peu l'utérus gravide, et puis en repartant, la patiente déjà n'avait plus la jambe raide, et la douleur a disparu complètement le lendemain. J'ai trouvé ça très très valorisant. Donc je me suis dit, mécaniquement, on a sûrement beaucoup de choses à faire sur la grossesse. Pourquoi ? Parce que la grossesse est une adaptation certes progressive sur 9 mois de l'organisme de la femme par rapport à l'expansion dont il a besoin, mais si son organisme n'a pas la capacité de donner les libertés ou les mobilités qui sont demandées, eh bien certains symptômes, certaines pathologies apparaissent. Et j'ai pensé que la femme enceinte, c'était du mécanique et c'est de la dysfonction mécanique principalement. Et c'est assez simple en fait à traiter dans la pratique quotidienne, beaucoup plus simple que la fertilité.
Ce livre Ostéopathie et grossesse, donc paru en 2016, si je ne m'abuse, c'est ton premier ouvrage. Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture, cette mise sur papier de ton expertise ?
Voilà, donc c'est en 2016, donc j'ai commencé 2 ans avant, hein, parce que ce livre, on n'écrit pas un livre en 5 minutes sur le coin d'une table, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En fait, je fais des formations sur le sujet depuis 2007, et mes polis se sont complétés d'une manière assez importante. Et je me suis dit, après tout, c'était peut-être intéressant toujours avec cet esprit de transmission, parce que quand on met en place des formations, il faut avoir vraiment l'esprit de transmission. Ça demande un tel investissement de temps et pédagogique, et alors aujourd'hui maintenant réglementaire avec les normes Calliope, entre autres, pour que les formations soient prises en charge pour les participants. Je me suis dit, en fait, que le livre permettait un petit peu de graver ou de sanctuariser un socle de départ pour qu'éventuellement, et j'espère que ça arrivera, beaucoup d'autres ostéopathes redéveloppent, se réapproprient le sujet, le redéveloppent et fassent avancer l'ostéopathie, la tour de Babel ostéopathique. Donc le livre est peut-être une petite pierre de la tour de Babel ostéopathique, voilà.
Et comment tu t'es organisé pour la rédaction de ce livre avec ta pratique? J'imagine que tu continuais de pratiquer à côté. Donc concrètement, comment tu t'es organisé pour écrire? Puisque comme tu l'as dit, c'est un processus qui prend du temps.
Oui, tout à fait. J'ai cherché un éditeur dans un premier temps, ce qui m'a permis d'aller au Salon du Livre de Lyon où j'ai rencontré Vladimir, qui était un éditeur qui était là. Il y a une chose qui m'a plu par rapport à sa proposition d'édition. c'est qu'il est ostéopathe. Et en fait, c'est très important pour moi d'être compris, puisque dans les livres qui sont faits par des vrais, enfin des vrais éditeurs, Tita est une véritable maison d'édition, mais par des éditeurs beaucoup plus importants, j'aurais pu les consulter également. Les gens qui relisent ne savent pas forcément ce qu'ils relisent. Et ça m'a servi énormément. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Vladimir, donc mon éditeur de Tita, sur mon premier livre, m'a, sur certains chapitres, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire là ?» Donc, en fait, ça a été un peu un garde-fou, parce que moi, ça me paraissait très évident, évidemment, quand on connaît un sujet. Mais pour un ostéopathe qui n'avait pas d'ouverture dans ce domaine, il y avait peut-être des choses qui étaient mal présentées. Donc ça, voilà, ça m'a permis un petit peu de corriger ça. Et je ne sais plus quelle était l'origine de la question.
C'était ton organisation pour ah oui. Écrire ce livre.
Alors, pour écrire ce livre, je suis parti de mes polis, qui étaient déjà bien structurés, mais qui étaient par rapport à un cours. Or, j'ai refait et j'ai refondu également ces polis pour le faire avec un esprit de livre, c'est-à-dire beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, en faisant très attention à ce que j'écrivais pour ne pas écrire n'importe quoi, évidemment. Et bah, c'est au cabinet, entre deux patients, ou quand un patient ne venait pas, ou des fois je prenais du temps pour écrire, mais également chez moi et les week-ends. Ça demande de nombreuses heures de travail. Quand on achète un livre et qu'on le lit, on n'imagine même pas les milliers d'heures, je dis milliers d'heures de travail qui existent dessus. Il m'est arrivé, par exemple, la nuit, quand j'avais une idée, de me lever et d'aller écrire tout de suite, parce que le matin, on ne s'en souvient plus. Donc, ça arrive assez fréquemment. Mais quand je vois, par exemple, Pierre Tricot, qui est un ostéopathe qui m'a permis que je respecte énormément et qui m'a permis de développer un certain côté de ma pratique, quand il envoie ses mails, c'est 3 ou 4 heures du matin. Il a écrit également de nombreux livres. Et il faut savoir qu'il se lève si jamais il a une idée. Parce que le matin, on l'a oublié, c'est à peu près certain. Donc, on pense, on vit, on mange, on dort, ostéopathie. Voilà. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Par contre, c'est une aventure exceptionnelle. Voilà. On a une certaine satisfaction d'avoir la publication quand elle sort. Mais ce n'est pas un orgueil du tout par rapport à ça.
Suite à ton expérience d'auteur, quel conseil tu donnerais à un confrère qui souhaite se lancer ?
Pour se lancer dans la réalisation d'un livre, je crois qu'il faut déjà avoir des idées très claires sur ce que l'on va mettre dedans. Après, bien sûr, on a des adaptations, des développements, et il faut faire vraiment un plan très très structuré, savoir où on va, savoir ce que l'on veut dire. Et il faut également savoir le rédiger. La rédaction d'un livre n'est pas la rédaction d'un poli, c'est pas la rédaction d'une lettre. Il y a un certain style à adopter. Si on n'a pas la capacité d'écrire facilement, ça va devenir compliqué parce qu'il faut avoir le faire avec un esprit didactique et pédagogique. C'est peut-être pas donné à tout le monde, je ne le sais pas, mais si on n'arrive pas à écrire soi-même, il faut écrire le principal et faire réécrire par quelqu'un d'autre. J'ai eu la chance dans ma vie, au hasard de mes pérégrinations d'adolescent un peu fumiste, de faire une philo, c'est-à-dire à l'époque j'ai une formation littéraire et ça m'a servi énormément, alors que je suis un pur scientifique, mais bon, le hasard à l'époque, les études ne m'intéressaient pas trop. Donc il faut une certaine rigueur, il faut une idée, il faut la capacité de pouvoir écrire avec un style livresque, on va dire simplement. Si on ne l'a pas, il faut trouver des artifices pour le faire, ou faire un co-auteur avec quelqu'un qui a la capacité d'écrire peut-être un petit peu mieux.
Tu parles de didactique, pédagogique, c'est cette idée de toujours dans la transmission. Une des particularités de ce livre, justement, c'est de présenter une technique par page et non à la suite les unes des autres. Ça apporte une grande clarté et chaque technique est accompagnée d'une petite jauge d'intensité sur 5 niveaux. Pourquoi et comment tu distingues ces niveaux ?
Alors, la prise en charge de la femme enceinte, on utilise, sachant que on est dans du parasitage mécanique, donc assez simple, on utilise souvent des techniques de compaction, comme j'ai pu l'expliquer ou le développer dans le podcast sur la fertilité. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui convient le mieux. La femme se ramollissant, on a peu de tension de surface, et il faut vraiment aller travailler en profondeur, principalement dans la cage thoracique. Pourquoi ? Parce que c'est là où l'inadaptation se fait, et la cage thoracique n'arrivant plus à drainer les liquides de l'abdomen qui sont un peu stagnants à cause d'un utérus qui se développe, et la plupart des symptômes apparaissent à ce niveau-là. Donc les techniques sont proposées avec une jauge d'intensité sur trois paramètres. C'est pour que la personne qui lit le livre ait vraiment un guide ou un rail guide tel qu'on peut le montrer ou le proposer dans les formations où là on a un contact réel pour bien l'expliquer. Ça permet d'avoir un repère très important par rapport à cette pratique et surtout à ne pas faire de bêtises par rapport à certaines techniques où il n'est absolument pas question d'aller agresser entre guillemets les tissus. Donc les jauges sont très importantes, en plus elles sont assez pédagogiques je pense.
En quoi la prise en charge de la femme enceinte est différente d'une consultation lambda ?
Alors la prise en charge de la femme enceinte, je dirais qu'elle n'est pas vraiment différente d'une autre consultation de lambda, mais elle est très orientée par contre. On va tester principalement, je vais distinguer dans le livre la première partie de grossesse et la deuxième partie de grossesse. La première partie de grossesse se rapproche plus d'une consultation classique, mais on doit commencer à vérifier la liberté de l'utérus, la capacité des liquides de l'abdomen à être drainés, les capacités de la cage thoracique à s'expanser par rapport à sa future élévation, savoir s'il n'y a pas d'aileron de cigogne ou ainsi de suite. Mais dans la deuxième partie de cette consultation, là, ce qu'on appelle les gros ventres, là, on a un travail qui est très mécanique, où on va passer son temps à essayer de libérer vraiment la cage thoracique pour drainer les liquides et puis libérer l'utérus en vue de l'accouchement et en vue de la fin de grossesse, de manière à ce que l'enfant puisse se retourner correctement et ainsi de suite. C'est une consultation très orientée, mais c'est une consultation où on a une réelle efficacité très rapidement, avec très peu d'éléments quand on a compris l'essentiel. Et surtout, c'est la notion de comprendre. Dans les formations, les jeunes ostéopathes qui viennent disent que souvent, au départ, je leur demande ce qui les a motivés pour venir, me disent souvent je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas quoi aller regarder. Et en fait, la lecture du livre ou les formations vont leur permettre d'avoir vraiment un rail guide et un protocole et un cheminement à suivre. Et c'est très facile de traiter une femme enceinte dans 80% des cas. Parce qu'on est dans du parasitage mécanique. Dans les altérations qui peuvent exister dans un organisme avec des dysfonctions qui vont s'installer, on a trois causes principales. Il y a le traumatique, il y a le métabolique, il y a l'émotionnel. Je ne vais pas trop détailler le traumatique. On peut avoir trois types de traumatiques, c'est développé dans les livres, qui est du traumatique cinétique, du traumatique statique et du traumatique lésionnel. Je ne vais pas les détailler là, ce serait trop long. Et dans la toxinie, on a deux types de toxinie, la toxinie intrinsèque et la toxinie extrinsèque. L'extrinsèque vient de l'extérieur, l'intrinsèque est produite par nos cellules. Après, des notions de saturation et d'engrammation, mais je ne vais pas les développer là non plus. Et puis, il y a l'émotionnel. L'émotionnel est un facteur très important, et c'est dans ces 20% de restants d'atteinte des femmes enceintes, où là, il va falloir utiliser d'autres techniques que celles qui sont préconisées dans le livre. Pourquoi ? Parce que c'est un événement émotionnel, ça peut être une échographie ou une suspicion de trisomie 21 et autres, où là on doit utiliser d'autres outils pour pouvoir aider la patiente. Le travail qu'on fait par rapport à la mécanique qui peut être parasitée est toujours valable, mais si on veut aller jusqu'au bout, il faut avoir tous les outils pour pouvoir remettre la voiture dans les rails, enfin sur la route.
Alors du coup, tu as fait un peu la transition par rapport à la formation. On t'avait posé la question sur la fertilité, sur ton précédent podcast. Est-ce que tous les ostéopathes sont qualifiés, formés pour la prise en charge de la fertilité ? Et donc là, forcément, je te repose la question par rapport à la grossesse. Et on voit sur pas mal de plaques d'ostéopathes dans la rue, ostéopathes, femmes, enfants, sportifs, etc. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de spécialité et que d'emblée, ils sont formés à ça.
En fait, les ostéopathes ont tous la compétence d'harmoniser un organisme, de ramener l'holistique. Après, il y a quand même quelques connaissances et quelques compétences à avoir dans certains domaines. Beaucoup, sur les sites des ostéopathes, sur leurs plaques, on voit toujours écrit « femme enceinte, nourrisson, sportif ». Bah oui, ça fait partie de notre quotidien, évidemment. Et c'est, je pense qu'ils l'ont mis dans un esprit d'attirer les gens. Mais tous ceux qui ont écrit ça n'ont pas forcément une compétence ou une connaissance hyper développée dans ces domaines-là. Mais la femme enceinte est plus facile à prendre en charge que la fertilité parce que c'est beaucoup moins complexe, ça demande beaucoup moins d'outils parce que les parasitages sont principalement mécaniques.
Du coup, comme pour la fertilité, quel conseil tu donnerais à un ostéopathe qui débute et qui rencontre en fait pour la première fois une femme enceinte et notamment, je dirais, sur le dernier trimestre ?
Le conseil que je pourrais lui donner, c'est un conseil pour toutes ces consultations d'ostéopathie, c'est de respecter les tissus. Il ne faut pas aller au-delà de ce qu'un tissu peut absorber. Il ne sera jamais délétère. Et dans le cadre de la grossesse, il travaille sur un utérus gravide. Au-delà de ça, il ne faut pas maintenir les appuis. Quand on fait des techniques, il faut les ressoulager, revenir dedans. C'est très, très mécanique, en fait, la femme enceinte. Mais tout ostéopathe se doit de respecter un tissu. Quand on travaille en tissulaire, on doit être à 99,9% de ce que le tissu peut absorber. Au-delà, on bloque tout et surtout, on peut devenir assez dangereux.
Tu prends en charge donc des femmes tout au long de leur grossesse. Est-ce que dans la prise en charge ostéopathique de la grossesse, il y a des temps à respecter ?
Alors, les femmes qui désirent être suivies par un ostéopathe pendant la grossesse, si normalement la grossesse n'est pas une maladie, c'est un événement physiologique, naturel et normal. Les femmes ne devraient avoir aucun symptôme, aucune gêne, et il y en a, heureusement, du reste. Donc, pour ces femmes qui vont très bien, je leur conseille de venir, alors au mieux, avant d'être enceinte, hein, bien sûr, pour essayer d'harmoniser déjà l'organisme et voir comment il fonctionne, ou voir quelles sont les potentielles légères dysfonctions qui existent. Une fois qu'elles sont enceintes, je leur demande de venir dans la première partie de grossesse, c'est-à-dire au bout de 2 ou 3 mois. Au bout de ces 2 ou 3 mois de grossesse, le corps doit déjà commencer à s'adapter. Et on va commencer à vérifier les restrictions de mobilité au niveau utérin, qui la plupart du temps sont en restriction à droite. On va commencer à tester la cage thoracique pour voir si elle a une capacité d'expansion, toujours dans le but à ce moment-là de préparer la patiente et de la suivre et de l'amener jusqu'à l'accouchement, pour que celui-ci se passe le mieux possible. Si tout va très bien, si ça ne va pas, je lui donne rendez-vous dans les jours qui suivent, 15 jours, 3 semaines ou 8 jours, enfin ça dépend des cas. Si tout va très bien, je leur demande de revenir à 5 mois et demi, 6 mois, au moment où l'utérus commence à sortir, entre guillemets, du bassin, le ventre commence vraiment à gonfler, pour voir différents éléments, les rétentions liquidiennes, l'engorgement des reins, la mobilité du cône utérin sur sa partie basse, et toujours l'expansion de la cage thoracique, savoir si elle se fait correctement et si la femme n'a pas des symptômes comme l'essoufflement, les jambes lourdes, les démangeaisons, qui sont un signe de toxinie avec un foie qui ne fonctionne pas entre autres correctement, ou les reins également. Et puis après, si tout va très bien, alors si ça ne va pas, je leur donne rendez-vous en fonction de leur évolution ou des cas particuliers, voilà. Et si ça ne va pas, si ça va très bien, je leur donne rendez-vous à partir de 6 semaines avant l'accouchement, pour faire ce qu'on pourrait appeler un accompagnement ostéopathique de l'accouchement, qui va lui permettre de prendre en charge son accouchement et surtout de contrôler si tous les éléments des liquides, de la cage thoracique, des restrictions de mobilité utérine sont dans les normes physiologiques qui vont lui permettre d'avoir un bel accouchement.
Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a sur la fin justement, ou au long de ce suivi, est-ce qu'il y a un moment où ton suivi s'adresse à 2 personnes, c'est-à-dire la maman et le bébé ?
Le suivi s'adresse forcément à 2 personnes dès le départ. Mmh. En fait, on a toujours tendance à oublier le bébé, mais il faut l'intégrer, ne serait-ce que mentalement, dans sa consultation. Et il m'arrive de parler au bébé, soit mentalement, soit verbalement. Je dis bonjour petit garçon, parce que souvent on ne connaît pas les prénoms, bonjour petite fille. Et en fait, quand on peut parler au bébé en voulant parler à la mère en même temps, parce que quand on s'adresse à l'enfant, on s'adresse aussi à la mère, ils sont un petit peu en symbiose à ce moment-là. Et si je peux donner un exemple d'un détail d'une consultation que j'ai pu avoir, consultation dans une des formations que je fais sur la grossesse, parce qu'il y a 3 consultations réelles de patientes qui viennent en consultation. Il y a la première partie de grossesse, deuxième partie de grossesse, et il y en a une en postpartum, où les participants peuvent venir faire les tests avant et après pour voir ce qui a bougé après la consultation. Donc un jour, il m'est arrivé d'une patiente qui est venue, qui était pédiatre, c'est un médecin pédiatre qui a galéré plus de 2 ans pour se retrouver enceinte, et qui est arrivée, je ne la connaissais pas du tout, elle a été amenée par une copine sage-femme dans la formation, je ne la connaissais pas du tout, elle m'avait juste dit qu'elle était pédiatre, c'était une femme très longiligne, qui était enceinte de 7 mois et demi ou 8 mois, qui était plate comme une limande. Et donc, j'ai fait mes tests, elle s'exprimait très peu, elle était très fermée, c'était difficile, surtout quand on a une tribune devant soi. J'ai commencé à travailler et rien ne se libérait. Et au bout d'un moment, je dis, bon, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Hein. J'ai plus d'a priori par rapport aux choses. Donc, je me suis adressé à voix haute au bébé en lui disant, Tu vois, petit garçon, parce qu'on ne connaissait pas le prénom, c'est un garçon. Ta maman, elle t'adore, elle t'aime. Mais alors, elle t'aime vraiment beaucoup. Elle a eu beaucoup de mal pour que tu puisses arriver. Ça a été difficile, ça a été long pour elle. Et elle t'aime tellement qu'elle te serre très fort. Mais dis-lui que tu as besoin de place, dis-lui. Parce que sinon, tu n'es pas à l'aise dans son ventre, ça ne peut pas le faire, et ainsi de suite. Donc j'ai tenu un discours comme ça à haute voix, et d'un seul coup, le ventre a gonflé, un peu comme un déni de grossesse qui lâche. C'est exceptionnel, je regrette de ne pas avoir filmé, parce que bon, c'était un peu délicat, je ne pensais pas que ça allait se passer. Voilà, donc il faut bien sûr prendre en compte l'enfant, là c'est un exemple qui concernait surtout la mère, mais il existe, et en fait, sur les dernières parties de grossesse, on travaille sur l'enfant à travers le ventre de la mère. On fait un travail holistique tel que Robert Rousse a pu le décrire. Lui, pas dans le ventre, mais ça revient exactement au même parce qu'on est parfaitement holistique et on travaille en tridimension entre la tête, les fesses, le dos et le reste. Voilà. On prépare la sortie.
Très intéressant cet exemple. Dans ton livre, tu exposes un protocole précis, presque normé du suivi de la grossesse. C'est évidemment une approche personnelle, mais du coup, est-ce que c'est transposable à tous les ostéopathes? C'est toujours la question qu'on se pose quand un auteur transmet en fait sa pratique personnelle.
Alors, je pense que oui, parce que le chemin que je suis dans toutes mes consultations est toujours le même, du moins pas quand je travaille forcément dans l'émotionnel, mais quand je travaille dans le mécanique ou dans le travail classique, on va dire, d'ostéopathie. Je tiens toujours compte de la notion des liquides et du drainage liquidien. J'ai distingué l'organisme en 5 zones différentes. Il y a la zone du crâne, qui est une zone organo-liquidienne, que j'appelle la zone 1. La zone 2 va être la zone du thorax aérique, qui est la zone des poumons et du cœur. C'est une zone assez creuse. La zone 3, j'appelle ça le thorax organique, c'est en fait la partie haute de l'abdomen avec les organes pleins, mais c'est une zone mixte entre le thorax et l'abdomen, qui est en fait purement organique. La zone 4 est une zone liquidienne, c'est celle qui comporte tous les intestins et les liquides du corps et ses réserves. Et la zone 5, c'est la zone pelvienne qui est organo-liquidienne. Si on veut respecter l'efficacité d'un traitement vasculaire, c'est-à-dire déjà en valorisant le système de vascularisation pour que les cellules soient bien nourries et surtout que les toxines soient bien drainées, il faut travailler les zones 2 plus 3 pour commencer d'une manière systématique, passer à la zone 4, voire 5 si nécessaire, ce n'est pas une obligation, et terminer par la zone 1. Il me semble, dans ma pratique, illusoire d'aller traiter un crâne quand on n'a pas libéré les éléments qui le verrouillent. Les éléments qui le verrouillent, c'est le médiastin, c'est la dure mère, et ainsi de suite. Et le crâne a changé complètement, si on le teste avant la consultation, enfin début de consultation, ou après avoir travaillé les zones 2, plus 3, 4, 5 si nécessaire, la mobilité du crâne a changé. Si on travaille un crâne en première intention, ce que font souvent beaucoup d'ostéopathes, c'est pas du tout une critique, c'est un constat, c'est comme vouloir démarrer avec une voiture en ayant le frein à main serrée. Vaut mieux aller desserrer les freins pour que ça fonctionne mieux.
Oui, bah c'est une critique.
je l'ai pas énoncé sous cette forme-là. C'est un conseil plutôt d'orientation. Et il y a une chose importante aussi, les zones 2 plus 3, on les travaille en même temps, c'est-à-dire thorax aérique et les organes pleins de l'abdomen. C'est le centre du corps, c'est là où il y a la pompe diaphragmatique, c'est l'espace de vie pour moi dans du bon fonctionnement d'un organisme. Et sur un thorax, je commence toujours par le côté droit, antérieur, latéral, postérieur. Après, je passe du côté gauche, antérieur, latéral, postérieur. Je vais très vite parce qu'il y a beaucoup plus de détails que ça dans le cheminement que je suis. Et je reviens, je fais le thorax supérieur en revenant. Je réharmonise et je finis par le rein droit si nécessaire. Tout ça, pourquoi? Parce que tous les systèmes de retour veineux et lymphatique de l'organisme, donc de la partie basse du corps, de l'abdomen, du pelvis et autres, reviennent par le côté droit, par les veines caves, les veines portes et les veines azygoses, dont la zygose droite va se jeter dans l'orifice du thorax supérieur, dans la veine cave supérieure, au niveau du thorax supérieur. Donc il faut absolument libérer l'ensemble. Et des fois, ce travail suffit simplement à ce que les voyants s'éteignent.
Bon, on l'a compris, il y a un protocole qui est bien cadré et tu l'expliques bien au micro et c'est très bien expliqué dans le livre. C'est vraiment un repère, une aide, hein, un guide, presque un guide pratique pour les praticiens. Est-ce qu'il y a une consultation qui t'a particulièrement marqué? Et là, on t'avait déjà posé la question sur évidemment la fertilité, là c'est sur la grossesse.
Celle que j'ai évoquée précédemment, oui, m'a marqué avec le ventre qui d'un coup part en expansion parce que je me suis adressé à l'enfant. En fait, c'est la mère qui avait entendu le message qu'elle devait lâcher. Elle était pédiatre, elle n'était pas idiote, loin de là. Donc elle avait lâché complètement, elle serrait plus le ventre. Et la plupart du temps, chez les femmes enceintes, même au-delà des primipares, même les multipares, ont toujours tendance à protéger leur enfant et à le serrer. Et souvent, dans les consultations à 5-6 mois, quand elles repartent, elles sont plus grosses, entre guillemets. Elles ont l'impression d'être enceintes un peu plus, parce que la mère, naturellement, est inquiète pour son enfant, et elle a toujours tendance à vouloir le retenir. Et pour être simpliste, je leur explique simplement que l'innervation du col n'est pas celle de l'utérus. Donc si l'utérus se contracte, le col ne va pas bouger, et quelquefois, c'est même un problème à l'accouchement, parce qu'il ne veut pas s'ouvrir du tout. Voilà, donc généralement, c'est la césarienne qui est programmée derrière.
Betsabé, primipare, multipare, ça te parle ou pas ?
Pas du tout.
Alors, j'espère que mes collègues ostéopathes savent ce qu'est une primipare ou une multipare. Une primipare, c'est une femme qui a sa première grossesse, et une multipare, c'est une femme qui en a eu plusieurs. D'accord. Et une femme qui n'a pas d'enfant est une nullipare. C'est pas pour ça qu'elle est nulle. Hein. Voilà, simplement.
Merci pour la clarification pour les novices. Comme dans l'épisode précédent, pour préparer ce podcast, on a proposé à nos auditeurs et nos lecteurs de te poser des questions. Donc je te donne la question de Pauline. Quelles sont pour vous les trois structures primordiales à investiguer chez une femme enceinte ? Pauline te vous voit.
Bonjour Pauline. Les trois structures principales à investiguer, c'est la cage thoracique avec la libération de son expansion. Principalement les ailerons de cigogne, qui c'est une éversion des cartilages costaux avec un cintrage diaphragmatique. Il y a les liquides de l'abdomen, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet de voir la normotonie d'équilibre qui existe ou pas entre la cage thoracique et l'abdomen, chose essentielle dans la physiologie humaine. Et puis il y a bien sûr l'utérus avec sa potentielle liberté sur son cône, c'est-à-dire sur sa partie basse, parce que s'il est libre, ou du moins le plus libre possible, ça va permettre à l'enfant de se positionner tout à fait correctement en fléchissant la tête pour exposer le diamètre le moins important et pouvoir s'engager facilement et dans le bon axe de la filière pelvienne.
J'enchaîne à mon tour avec une question clin d'œil un peu de Natacha. Donc Natacha a effectué la relecture correction de tes ouvrages et elle a été très étonnée du mot fulcrum qu'elle a rencontré la première fois dans sa vie sur ostéopathie grossesse et surtout la forte présence de ce mot tout au long du livre. Est-ce que tu peux expliquer à Natacha et aux auditeurs cette notion de fulcrum ?
Alors je pense que beaucoup d'ostéopathes connaissent la notion de fulcrum, mais je vais quand même l'expliquer tel que je l'aperçois. C'est un terme que j'utilise beaucoup. On pourrait utiliser le mot point d'appui. Le fulcrum est quelque chose que l'on propose au patient à partir duquel on pose un ou plusieurs fulcrums physiques ou mentaux à partir duquel les tissus du patient vont pouvoir se réharmoniser. C'est comme si on mettait un doigt sur un élément et que tout l'élément allait se délier parce qu'on a placé le doigt là où il fallait. Donc le fulcrum des fulcrums est très important à potentiellement trouver. Il n'existe pas, c'est purement théorique simplement. Donc ce fulcrum est un point d'appui. Il a une résonance physique, matérielle dans l'esprit de beaucoup d'ostéopathes, mais quand on travaille dans l'émotionnel, il y a aussi une résonance mentale. On doit apporter les fulcrums pour que les gens puissent travailler eux-mêmes dans l'émotionnel. Et je tiens à dire que j'utilise beaucoup ce terme, à cause ou grâce plutôt à un ostéopathe qui s'appelle François Bell, qui l'utilise lui dans toutes ses phrases, voilà simplement.
Merci Bernard pour ce nouvel épisode très intéressant. Nous avons hâte de t'accueillir pour parler d'accouchement et de postpartum.
Merci Bernard.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Bernard Ferru. Je remercie l'agence Kawalearn pour la technique et Betsabé Mère pour la préparation de cet épisode. Le prochain épisode sera consacré à l'accouchement et au postpartum dans la continuité de la grossesse. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode sur la fertilité. Si vous avez aimé cet épisode, encouragez-nous à en produire plein d'autres. Abonnez-vous, partagez auprès de vos amis, laissez un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, le prochain numéro, vous pouvez retrouver les livres de Bernard Ferru dans toutes les bonnes librairies et sur titashop.fr.